RFI. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, arrêtez-vous un instant et regardez vos pieds, sauf si vous conduisez bien sûr. Regardez vos pieds donc et prenez le temps d'observer sur quoi ils reposent. Au-delà du bitume ou de la construction dans laquelle vous vous trouvez, sur quel sol marchez-vous? De quoi est-il constitué? Quelle est son histoire? Vous ne vous êtes jamais posé la question? Normal, vous lui marchez dessus, ce qui n'inspire pas le respect. Et pourtant, nous lui devons beaucoup. Notre alimentation, la qualité de l'air que nous respirons, de l'eau que nous buvons, les sols de notre planète se sont formés au gré de son histoire géologique sur des milliards d'années. Et nous, avec l'agriculture intensive, l'élevage, le bitume, nos bâtiments en tout genre, la déforestation, nous les détruisons. Chaque année, nous dégradons 100 millions d'hectares de terres saines et productives. Résultat, 40% des sols mondiaux de la planète sont dégradés. C'est pour trouver des solutions que les représentants de 195 pays sont réunis depuis la semaine dernière et jusqu'à vendredi à Riyad, en Arabie Saoudite, pour la 16e conférence des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Et c'est de là que je vous parle, puisque nous allons vous faire vivre cette conférence importante. Mais commençons par aller sur le terrain au Burkina Faso et en Inde, où des projets d'ampleur démontrent que la restauration des sols est à notre portée.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Henri Girard, le fondateur de la ferme de Guiers au Burkina Faso, n'a pas attendu les négociations de la COP16 de Riyad pour agir. Ce laboratoire de technique de refertilisation des sols est situé à 60 km au nord de Ouagadougou. Il inspire de nombreux pays depuis plus de 30 ans.
Je m'appelle Kabore Seydou, je suis agroéconomiste de formation. Et je travaille à la ferme pilote comme responsable des aménagements fonciers.
Et c'est vous qui nous accueillez aujourd'hui?
Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc là, on va dire que nous sommes sur le site de la pépinière où pratiquement tous nos travaux commencent par la production des arbres.
Alors juste derrière nous, il y a plein de petits plans. Il y en a qui sont à l'extérieur, il y en a qui sont sous serre pour essayer de comprendre comment marche cette pépinière donc, qui est le cœur de la ferme. On va aller à la rencontre d'une des responsables.
Mariam Sampebougo, qui est responsable de la pépinière.
Bonjour.
Bonjour.
Alors vous travaillez à la pépinière, on peut aller voir les plants un petit peu là-bas?
Oui, possible.
Vous produisez quelle quantité de plants ici chaque année?
La quantité, ça dépend de l'année. En 2014, nous avons produit 23 113 plants.
Qui est-ce qui vous commande des plants?
Ceux qui nous commandent des plants sont les 10 villages membres de la ZIREN. Et en plus, les gens de Ouaga et de Jignaré. Nous, on va à n'importe qui.
La ZIREN, c'est donc l'association qui a été créée en même temps que la ferme qui regroupe les 10 villages aux alentours. Ça fait à peu près 10 000 habitants. Donc les gens viennent s'approvisionner ici en plants. Et puis vous faites donc tous ces plants pour entretenir les bocages de la ferme et puis mettre dans les champs expérimentaux. Alors, il y a plein de petits plans, là, c'est quand même, on voit que c'est un travail minutieux, hein. C'est très bien organisé, c'est très joli, c'est organisé par bandes. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques-unes de ces variétés, nous expliquer à quoi elles servent?
D'accord. Je peux vous expliquer, ces plants-là, c'est ce que nous appelons le combritum micrantum, ça, on appelle ça ranra, et en français, c'est quinqueliba. Et ça, nous utilisons ça pour la construction de nos haies vives.
C'est important, les haies?
Ah oui, c'est très important. En fait, nous construisons la haie pour lutter contre la dégradation du sol, pour lutter contre la divagation des animaux, les vents, et en plus, on lutte aussi contre la désertification. Et ensuite, en taillant les bois, on peut utiliser ces bois-là pour faire du compost ou bien pour le stockage des bois pour la cuisine.
Et pourtant, on ne sait pas toujours, et souvent les paysans coupent les haies. Ou n'y font pas attention, les laissent manger par les animaux?
Ouais, En fait, les paysans ne connaissent pas l'importance de la plantation d'arbres. Donc, c'est fait qu'ils coupent les arbres au hasard. Mais maintenant, je peux dire que de nombreuses personnes comprennent. Voilà.
Pourquoi vous regardez comme ça? Elle a dit des bêtises?
Elle a oublié le baobab.
Ah, le baobab, bah quand même, arbre majestueux.
Ah ouais, on produit aussi le baobab pour besoin des feuilles, pour la sauce, et en plus les fruits aussi.
Ah oui, la semaine dernière dans l'émission, on a mangé du thon avec, en effet, une sauce avec des feuilles de baobab séchées, c'était très bon. On peut voir des petits plants de baobab?
Ouais, ils sont à moment de la germination.
Ah donc ils sont sous la serre, parce qu'il y a des plants qui sont à l'extérieur, et il y en a qui sont sous la serre. Et où est-ce que vous vous approvisionnez pour les semences?
Les semences, en fait, nous, on les récolte en brousse.
C'est important de récupérer les semences plutôt que de les acheter?
Ah ouais, parce que pour acheter, ça va demander trop de dépenses. Mais si c'est pour récolter, ça demande de la connaissance seulement.
Alors, où sont ces petits baobabs? Ils sont tout petits, petits. Et ils vont atteindre, pour nos auditeurs qui n'auraient jamais vu de baobab, ça atteint des tailles incroyables.
D'ici dans 3 ans, il peut atteindre 4 mètres. Voilà. Et il faut grimper pour cueillir les feuilles.
Vous travaillez ici depuis combien de temps?
Moi, je suis là depuis 10 ans de chez là, à la pépinière.
10 ans?
Ouais.
C'est important pour vous ce que vous faites au quotidien?
Oui, c'est très important. Parce que moi, en tout cas, je travaille à la pépinière pour lutter contre la désertification. Et en plus, je conseille des gens à planter pour lutter contre la dégradation du sol. Avant, les gens ne voulaient pas planter les arbres.
Et du coup, grâce à vous, le paysage ici est un peu modifié?
Ah ouais, c'est grâce à la sensibilisation, grâce à l'explication. À chaque année, ils viennent acheter des plants pour aller planter chez eux.
Vous avez planté combien d'arbres dans votre vie, vous savez?
J'ai planté 600 arbres dans mon jardin et dans mon enclos.
Mais au total, vous avez participé à la plantation de milliers d'arbres?
Oui, plus de 10 000 plants que nous avons plantés dans tous les jardins. Depuis que l'Algédène existe, ils ont planté plusieurs dizaines de milliers d'arbres.
On vous laisse travailler, merci de nous avoir consacré un peu de temps.
Ah, ok, grand merci, bonne journée.
Vous aussi. C'est d'où on a vu donc tous les plants ici dans la pépinière, mais ces plants, évidemment, l'objectif, ce n'est pas qu'ils restent là, c'est qu'ils aillent dans les champs. Alors vous allez nous montrer justement les champs expérimentaux qui sont la spécificité de la ferme de Guillet et puis les périmètres bocagers, vous allez nous expliquer tout ça, parce qu'ici c'est un véritable laboratoire pour apprendre à faire de l'agriculture en zone aride.
Oui, c'est vrai, tous les plants qui sont produits ici ne sont pas destinés à rester là, donc on les utilise dans nos aménagements de périmètres bocagers, de routes. Voilà, donc on ira voir ça tout à l'heure là.
Tout de suite en fait.
Tout de suite, oui.
Alors on y va. C'est d'où là nous sommes donc arrivés après avoir roulé quelques centaines de mètres. On n'est pas allé bien loin. On est arrivé donc au périmètre bocager. Expliquez-nous ce que c'est.
Ici on est devant, on est à l'entrée du périmètre bocager de Tankouri. C'est un périmètre qui a été aménagé en 1998. Il fait 100 hectares et il est exploité par 23 familles. Et le principe d'aménagement, c'est l'aménagement anti-érosif. Donc on réalise des diquettes en terre pour empêcher l'eau de sortir des champs. Et en plus de cela, il y a des zones de retenue d'eau pour les périodes de grosses pluies. C'est l'aboutissement de 25 ans de travail. Au début, le premier périmètre qui a été aménagé, il faisait 2 hectares. Ensuite, il y a eu 4 hectares. Ensuite, 8 hectares. Et ça, en 98, ça a été le premier grand périmètre qui fait 100 hectares. Aujourd'hui, on a au total 504 hectares de périmètre. Et le plus grand à ce jour, il fait 146 hectares.
On va rentrer à l'intérieur pour voir s'il y a une grande différence finalement entre ce qui est cultivé à l'intérieur du périmètre bocager et ce qui est cultivé à l'extérieur. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, hein ?
Oui, c'est février Et février est reconnu pour être un mois de beaucoup de vent. La fin de l'harmattan, le vent d'est qui souffle.
Un vent qui dessèche aussi.
Oui, qui dessèche. C'est un peu l'harmattan, quoi. Voilà.
Périmètre bocager qui est fermé avec un gros cadenas. Hein. On n'y rentre pas comme ça.
C'est les champs expérimentaux. Voilà, parce que c'est, on va dire, c'est notre laboratoire.
On repère, alors vous me dites si je me trompe, mais la technique du zaï là, parce qu'il y a des trous dans le sol avec des feuilles à l'intérieur. Alors expliquez-nous ce que c'est que cette technique et à quoi elle sert.
Et la technique du zaï, on va dire, a été inventée dans les années 70 dans le Yatenga. Et c'est une technique de récupération des sols, parce que ça permet à la fois de garder l'eau et aussi de garder les nutriments pour les cultures. Donc ça consiste simplement... Je dis simplement, mais c'est quand même assez dur à mettre en place. Ça consiste à creuser un trou d'une dizaine de centimètres de profondeur et d'une trentaine de centimètres de diamètre. Dans ce trou, on dépose du compost à la saison des pluies. On sème.
Et le fait que ce soit dans un trou, ça garde mieux du coup l'humidité, voilà, et ça évite, s'il y a des pluies, que le sol soit lessivé.
C'est l'objectif premier même, c'est cela. De garder l'eau, parce qu'on est dans des zones, en zone sahélienne, il pleut. On va dire... En gros, il pleut assez pour faire pousser des cultures. Mais après, c'est les périodes, les zones de sécheresse, là, dans la saison de pluie, c'est là qui devient problématique, quoi. Par exemple, ici, on a eu 714 mm, on va dire en moyenne 700 mm par an. Mais on peut avoir de mauvaises récoltes parce que simplement, pendant la saison des pluies, il y a eu peut-être 10 jours sans pluie. Là, on a un baobab qui a été planté, il y a, je pense, dès les débuts. Et aujourd'hui, ben, on utilise les feuilles pour faire la sauce. Et je ne pense pas qu'il a commencé à produire des fruits, mais bon, déjà, les feuilles peuvent être utilisées. En fait, ça fait que le système aussi, on essaie de faire un système agroforestier.
Donc, c'est-à-dire qu'on met des arbres au milieu des cultures. C'est ça, voilà. Le principe de l'agroforesterie.
C'est ça, c'est ça.
Et c'est aussi bon pour les sols.
C'est très bon pour les sols parce qu'il y a des arbres qui fixent l'azote au niveau de leurs racines et certaines plantes au niveau de leurs feuilles. Et quand ces feuilles tombent, l'azote est libéré pour les cultures. Et aussi les racines des céréales là peuvent puiser le stock d'azote là qui est au niveau des racines des plantes là.
Parce que l'azote est un engrais puissant.
Oui, et ça permet à la plante de bien se développer.
Et puis ces arbres, ça permet aussi du coup d'en récupérer les fruits, pour ça fait toujours un petit revenu en plus, quoi.
Voilà, c'est ça.
Et donc là, qu'est-ce qui a été planté dans le champ juste à côté, là?
Donc dans ce champ, il a été semé du sorgho. Le sorgho, c'est la tête d'assolement.
C'est-à-dire?
C'est la première culture qu'on fait pour un champ, un nouveau champ qu'on a. Et le sorgho se fait dans le zaï. Dans notre système, après le sorgho, on laisse le champ en jachère pâturée, pour que l'herbe pousse. Et on fait rentrer les animaux, ils vont brouter l'herbe et laisser aussi leur déjection. Tout ça, ça va participer encore à fertiliser ce sol-là. Donc après la jachère pâturée, on sème des légumineuses, arachides, haricots, du pois de terre. C'est ce qu'on appelle les cultures secondaires, on appelle de sésame aussi. Tout ça, ça rentre dans notre système de rotation là. Et donc après cela, on revient avec le zaï, le mil ou le sorgho. Voilà, ça c'est une rotation sur 3 ans.
Je suis désolée pour les auditeurs, il y a du vent, ça s'entend dans le micro, mais on ne peut pas faire autrement là. En effet, on voit par terre les déjections des animaux, les branches qui se décomposent, tout ça, ça fertilise. Alors là, on est en train de traverser une haie, où ça pique.
La haie va abriter des insectes, des petits lézards, qui participent aussi à la biodiversité du champ là.
Mais du coup, j'imagine qu'il y a beaucoup de villageois qui ont envie d'être intégrés dans ces périmètres.
Mais oui, il y en a beaucoup et il y en a beaucoup de demandes. Et actuellement, on a des projets d'aménagement de périmètres bocagers.
Mais il faut des moyens, des hommes.
Et ça demande beaucoup de moyens. La restauration de l'environnement coûte excessivement cher. Ouais. À partir de terres dégradées, quand on veut remettre les choses en place, ça demande beaucoup d'énergie.
Par exemple, ça coûte combien un périmètre bocager de 100 hectares comme celui où nous sommes
100
là ?
100 hectares, de nos jours, ça coûte en moyenne 40 millions.
40 millions francs CFA, ça fait 60 000 euros. Qu'est-ce qui coûte cher ?
Il y a deux volets. Il y a d'abord la clôture et surtout des gens qu'on paye pour faire le travail là. Voilà, on essaie de développer le système de IMO, activité à haute intensité de main-d'œuvre rémunérée.
Parce que ça, c'est bon pour le développement.
Oui, si on veut faire un rapport, la partie d'argent qui va à la population, c'est autour de 60%.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous sommes au Burkina Faso à 60 km au nord de Ouagadougou, à la ferme de Guié, une ferme pilote qui innove dans les technologies agricoles pour aider les paysans à s'adapter aux conséquences des changements climatiques et à cultiver en zone aride. Alors on a vu ce qu'était le périmètre bocager, autre innovation, le jardin pluvial. Sédou Kabouré qui est responsable des aménagements à la ferme pilote de Guié. Sédou, là nous sommes dans un jardin pluvial, alors qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, on est dans un jardin pluvial. Et comme le nom l'indique, le jardin pluvial, c'est un jardin qui est aménagé pour être exploité pendant la saison des pluies. Le principe, c'est de faire une retenue d'eau qui est bétonnée pour éviter l'infiltration. Là. Et le jardinier se sert de cette eau pour arroser ses légumes.
Là, nous sommes à côté du bassin de rétention d'eau qui fait à peu près 9 mètres de diamètre. Mm-hmm. C'est le paysan qui le construit ou c'est vous qui donnez les plans ?
Les plans sont donnés par nous, les techniciens. Et le paysan, lui, son apport, c'est de creuser la mare. Et nous, on apporte le ciment, le fer à béton pour bétonner l'intérieur.
On va essayer de savoir si c'est vraiment efficace. Et on est justement dans le jardin pluvial d'un monsieur. Vous pouvez nous le présenter ?
Oui, il s'appelle Gagré Puirkieta.
Ni Ebogo. Merci de nous accueillir dans votre jardin. Vous cultivez quoi ici ?
Mkoda Kamana. Qui parlait et aubergine dit.
Ouais, il fait beaucoup de cultures, il cultive du maïs, tomates, des aubergines, des tomates, du melon, des pastèques. Ouais, il fait aussi du gombo.
Qu'est-ce qui a changé à partir du moment où vous avez construit ce bassin de rétention d'eau ?
Il y a eu effectivement du changement depuis que le jardin a été aménagé parce que il produit avant tout le monde. Dès qu'une première bonne pluie tombe et que le bassin est plein, il commence sa production. Quand on arrive ici dans le mois d'août, il a beaucoup de légumes, beaucoup de maïs qui est prêt à être consommé.
Du coup, il est sûr d'écouler sa production. Est-ce que votre niveau de vie a changé depuis que vous avez aménagé ce jardin ?
Voilà. Et même pas jardin.
Voilà, en fait, ce qu'il dit, c'est un peu la limite liée au jardin pluvial qui n'est que exploité pendant la saison des pluies. Effectivement, sa vie a changé parce qu'il gagne beaucoup plus d'argent. Ce qui améliorerait la chose, c'est qu'il puisse exploiter pendant la saison sèche actuellement. Là. Il dit que ce serait la belle vie. Quoi. Voilà.
Est-ce que vos rendements ont augmenté grâce à cet aménagement ?
La production, effectivement, a augmenté par rapport à avant. Donc le maïs, les aubergines, les tomates, le piment, tout ça. Quand il récolte tout ça et qu'il vend, ça fait beaucoup d'argent.
C'est quoi, deux ou trois fois plus ?
Voilà, il explique qu'effectivement, les récoltes qu'il a ici sont supérieures à ceux qui cultivent à l'extérieur. Par exemple, pour le piment, si les autres ils ont 3 sacs de piment, lui, il en a jusqu'à 9, ça fait pratiquement 3 fois le rendement des autres que lui, il a ici.
Baraka.
Baraka.
Merci beaucoup.
Il n'y a pas de panne. Il Henri Girard, donc je suis franco-burkinabé, né en France dans la région de l'Avesnois, entre la France et la Belgique. Je suis venu au Burkina depuis 1986, mais vraiment installé depuis 1989.
Et c'est vous donc qui avez créé cette ferme de Guiers en 1989, avec quelle motivation ?
C'était d'abord un rêve d'enfant, puisque en 1973, à l'âge de 12 ans, j'avais vu un reportage à la télévision française qui montrait la grande crise de l'année 73 au Sahel, où il y a eu beaucoup de gens qui ont dû quitter leur village, prendre la route du fait de l'assèchement des puits, du manque de récolte et tous les problèmes liés à la désertification à l'époque. Et donc ce reportage a été le déclenchement de ma vocation. Et je l'ai préparé, cette vocation, déjà dans la ferme de mon père, puisque mon papa était agriculteur. Et je suis venu au Burkina Faso à l'âge de 25 ans pour découvrir pour la première fois ce qu'était le pays sahélien dont je rêvais depuis 13 ans. Et je cherchais en fait un endroit, un lieu où je puisse m'engager pour lutter contre la désertification. Bon, à l'époque, je trouvais que, comme j'étais seul déjà, je suis venu seul assez démuni, donc je trouvais que la partie nord était un peu trop dure pour moi à l'époque. Et puis, c'est aussi le contact avec la population qui est ici à Guiers, qui a été différente d'autres endroits. Un village très retiré, un peu à l'écart de tout. Donc, ça fait que c'est ce qui m'a amené en fait à jeter mon dévolu sur ce village.
Alors on a entendu dans l'émission toutes les techniques qui ont été élaborées pendant 25 ans d'expérience finalement. Comment est-ce qu'au fur et à mesure vous avez pu élaborer ces techniques et les transmettre et faire en sorte que cette transmission soit acceptée aussi? Vous êtes un blanc quand même par les villageois autour de Guiers puisque vous travaillez avec une dizaine de villages.
Alors quand je suis arrivé au départ, je connaissais bien l'agriculture européenne mais je connaissais pas grand-chose à l'agriculture tropicale, donc j'ai dû l'apprendre. Je crois que j'étais au départ le plus mauvais paysan de Guiers, parce que j'allais d'échec, un peu d'échec en échec. Un jour, le président de notre association m'a même dit « Tu sais, l'agriculture, nous on sait ce que c'est, viens nous faire plutôt un dispensaire, un fourrage, une école, ça sera plus utile que t'occuper de ce qu'on connaît déjà. » Mais bon, j'ai persévéré quand même, parce que l'agriculture telle qu'elle se présentait à l'époque et encore dans beaucoup de cas aujourd'hui n'était pas satisfaisante ni en sécurité ni en quantité. Donc j'ai persévéré par diverses expériences sur le paillage, sur la conservation de l'eau, tout ça. Et progressivement en fait, s'est mis en place en fait l'idée qu'il fallait travailler d'abord sur le cadre dans lequel se déroulait l'agriculture. C'était la chose importante. Et donc, bon, en tant qu'enfant du bocage, peut-être, je me suis naturellement tourné vers un système bocager pour arriver à préserver l'environnement et à lier les activités humaines à la nature telle que l'homme l'a trouvée quand il est arrivé au Burkina Faso. La définition du bocage, c'est l'arbre, les cultures et les herbages qui sont associés. Mais l'arbre est associé sous forme d'un maillage de haies vives, en fait.
On a entendu des témoignages dans l'émission de gens qui, grâce aux techniques que vous avez partagées, ont pu augmenter leur rendement, augmenter leur niveau de vie. Maintenant, le défi est immense. La désertification gagne du terrain au Burkina Faso, comme dans toute la bande sahélienne. Quel bilan faites-vous de vos 25 ans d'activité aujourd'hui et comment est-ce que vous voyez l'avenir ?
Depuis à peu près 9-10 ans, notre système est au point. Ça veut dire qu'on a mis à peu près une quinzaine d'années de travail pour bien le mettre au point. Donc on a un système techniquement qui est fiable, qui peut vraiment répondre à la question de l'inversion de la désertification. Vous voyez, dans la région de Guiers, on a fait un peu plus de 500 hectares. Par rapport aux besoins d'aménagement, par rapport aux zones désertifiées, c'est une petite goutte d'eau que nous avons semée, que nous avons mis dans ce paysage. Mais je crois que ce qui est essentiel, c'est qu'on ait fait ce travail. Il y a aussi la manière de s'organiser pour mettre en place cette technique, la connaissance de la problématique sociologique du monde rural et tous ces facteurs-là qui sont importants. Donc ce travail que nous avons fait, ce travail de pionnier depuis 1989, en fait aujourd'hui il est à disposition de qui veut s'en servir. Et maintenant ce qu'il faut, c'est avoir les moyens à la fois humains, financiers et aussi la force de conviction des populations, de tous les décideurs, pour que cela passe maintenant à une échelle plus grande et pouvoir travailler avec ampleur. Mais ce qui est essentiel pour moi, c'est d'avoir pu faire ce travail tout au long de ces années pour être maintenant prêt à se démultiplier.
Merci Henri Gérard.
Merci Anne-Cécile.
L'Afrique est le continent le plus concerné par ce phénomène de la dégradation des sols, mais l'Inde est aussi frappée par ce fléau. Près d'un tiers de ces sols sont abîmés, mais là aussi, il existe des solutions rentables et simples pour refertiliser les sols. C'est le combat que mène l'association indienne Water Organization Trust depuis 25 ans, en apprenant aux villageois à mieux gérer leurs ressources naturelles. Sébastien Farcy s'est rendu dans l'ouest du pays, dans un endroit où l'association a démontré son savoir-faire.
not a single tree in 1999.
Ah, donc en 1999, il n'y avait pas un seul arbre. Ils ont tous été plantés justement par ce travail volontaire.
Trunk of that particular tree. You can see the life of the tree and the size of trunk. If you see, this is 20 years back.
Ah, on voit par la dimension, la largeur du tronc, ils ont une quinzaine, vingtaine d'années. Ils ont tous été plantés justement par les gens du village dans ce programme pour retenir les eaux qui s'écoulent de cette montagne, éviter bien sûr les inondations et charger la nappe phréatique.
Because if there is no tree, the water is fall on the speed and it flows because of the slope.
Ouais, donc on voit, il y a énormément d'arbres en fait, hein, sur toute la vallée, sur toute cette petite montagne qui surplombe le village. Énormément d'arbres qui retiennent donc la terre, qui évitent qu'elle parte en cas de pluie. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
My name is Prashant Kalaskar.
Mon nom est Prashant Kalaskar. Je suis un ingénieur civil de formation, spécialisé dans les techniques de protection de l'environnement. Je travaille depuis 2002 pour l'association Water, où je suis maintenant responsable adjoint de cette zone de l'État du Maharashtra. Dans ce village de Vankute, j'ai mis en place il y a 20 ans le programme de gestion du bassin hydrologique. Les habitants ont depuis appris à préserver leur environnement pour éviter l'érosion des sols. Cela veut dire qu'ils n'ont pas le droit de couper les arbres. Ils ne peuvent pas envoyer leurs bêtes brouter dans la forêt. Et ceci afin d'éviter qu'ils ne mangent les jeunes pousses. Maintenant, ce village est quasiment autosuffisant en eau potable et en eau pour l'agriculture. Et ils arrivent même à avoir une deuxième récolte grâce à une technique d'arrosage par goutte à goutte.
C'est quoi ça? What is that?
This is a tomato with mulching. So they are also provided the drip irrigation. You see the drip is provided.
Ah oui, d'accord. Ce sont des tomates avec justement des goutte à goutte.
The mulching paper is provided there. You can see the structure of gabion.
Et ici, vous pouvez voir la structure en gabion, comme on les appelle.
And also control the runoff.
C'est un système de barrage pour contrôler l'érosion des sols et recharger les puits des environs. Venez voir.
On va descendre. En effet, ils veulent nous montrer le barrage qui a été construit pour retenir les eaux.
You can see the clean water,
right?
Because there is no mud, there is no runoff, there is no soil erosion. This dam wall was built in the project. This is called as a gabion structure.
Ah, bien sûr, il y a tout un système de tranchées qui ont été construits depuis tout là-haut, depuis la montagne, et avec par intermédiaire donc des barrages de pierre qui sont retenus par des fils pour être bien compacts, retenir le sol et surtout et éviter que l'eau coule trop rapidement. Elle coule doucement, donc elle va s'écouler dans les terres et permettre l'irrigation, une eau qui est en effet très propre. On voit qu'elle est vraiment très propre, cette eau. Donc ça veut bien dire que le sol n'a pas été chargé, n'a pas été pris par l'écoulement.
Habituellement, les eaux de pluie descendent rapidement à cause de la pente. Elles emportent alors les arbres et arbustes sur leur passage et vont lessiver toute la terre.
Et ça, c'est bien sûr, c'est empiré par les coupures des arbres, par l'activité humaine.
Les hommes veulent posséder toujours plus et toujours plus. Ils détruisent les forêts, coupent les arbres, s'accaparent ces espaces pour les transformer en terres agricoles. Mais sans les arbres et leurs racines, la terre arable n'est plus retenue et est lessivée dès qu'il pleut. Et l'eau ne peut plus pénétrer dans les sols, elle s'écoule rapidement en aval. Et sans ces réserves d'eau, dans les montagnes et les forêts, les villages souffrent de sécheresse.
Vous dites que cette région reçoit entre 400 et 600 mm d'eau par an. Est-ce que c'est très aride ?
Ce village reçoit en moyenne 400 mm d'eau par an. Mais cela fait 2 ans que ses habitants souffrent de la sécheresse. L'année dernière, il a plu 2 fois moins que d'habitude, avec 210 mm cumulés sur l'année. À cause de cela, leur deuxième récolte en a souffert et ils ont eu à peine de quoi boire pendant l'été. Cela fait 10 ans en fait que nous voyons que le rythme des pluies a été complètement bouleversé dans la région. Et cela est un signe clair du changement climatique.
Alors maintenant, Prashan nous emmène vers un champ situé sur la côte, une côte assez raide de cette vallée. son association appelée Watershed Organization Trust ou Water a aidé ici les habitants à terrasser ces champs, ceci bien sûr afin d'éviter l'érosion des sols.
So this is the agriculture land. You see one after that. Then we also planted here the trees on the bunch. This is the teak wood, the big leaves. Mm.
On voit bien que les champs qui montent vers la montagne eh bien, ont été espacés de buttes pour retenir justement les eaux qui descendent de la montagne. Et sur chaque butte, des arbres ont été plantés, comme du teck, qui est planté, qui pousse bien ici.
So water is pointing because of the construction.
Ah oui, on voit une mare en effet, ouais, qui a été retenue entre deux buttes. On est à la saison des pluies, donc bien sûr, il y a les eaux qui tombent du ciel en ce moment, un petit peu. Et cette eau, c'est accumulé, vraiment, il y a une grande mare hein, qui s'est accumulée et qui serait descendue vers la vallée s'il n'y avait pas eu cette butte. C'était Hande, of course.
Bajrao.
Bajri Hande. À quoi ressemblait ce terrain il y a 20 ans?
En 1999, il n'y avait qu'une longue pente du haut de la montagne jusqu'en bas. Nous avons donc créé ces longs monticules réguliers qui s'étendent sur toute la largeur du champ. Et nous avons planté des arbres dessus pour retenir la terre.
Ah, c'était une pente. Une pente complète. Alors que là, c'est vraiment des escaliers. Pas besoin, en fait, de terrasser. Il faut, justement, fabriquer ces petits monticules toutes les 50 mètres environ. Et puis, la terre s'accumule et forme elle-même les terrasses qui s'aplanissent par accumulation de la terre.
You see, because of ban on grazing. There is plenty of trees get protected, and there is a good forest.
La forêt qui est juste au-dessus, qui est en amont et qui nous surplombe, eh bien, elle est bien, bien fournie. Il explique que c'est justement parce qu'ils ont interdit aux animaux d'aller brouter là-haut, et donc de retirer en faisant cela toutes les graines des arbres, de retirer en fait toutes les racines, et de permettre donc maintenant aux arbres de grandir. Donc c'est tout un système qui est assez simple. Hein. C'est quand on le voit, il est assez simple, c'est pas très compliqué. Il y a les léopards qui descendent ici, mais il faut les respecter. Hein. Il dit que ce sont les rois de la jungle. Alors nous nous arrêtons maintenant devant un champ de ce village de Van Kouté, c'est celui de Pandurang Shankar Hande. Il est le vice-président du comité en charge de la protection de ce bassin. Prashant, notre guide, l'ingénieur de l'association, donc, nous y emmène dans ce champ pour nous montrer de plus près l'une des structures construites pour retenir le flot de la rivière. C'est un bassin de retenue des eaux qui a été construit ici. Au Shankar qui nous montre ces beaux arbres, ces beaux pommiers, comme custard qu'on appelle ici, puis un manguier, des manguiers par là aussi qui ont été donc qui ont poussé depuis les 20 ans de ce projet. Les petits pois, les pommes, les mangues, tout ça sont des plantations très importantes parce qu'on appelle ça les cash crops ici, les plantations qui peuvent vraiment qui vont vendre. Et qui donc vont leur rapporter de l'argent, qui va faire la différence justement entre cette simple agriculture vivrière de subsistance et cette agriculture qui va permettre d'enrichir un peu plus ces agriculteurs.
Ye pura apke
zameen hai. Ye mera hai wo, ye idhar se.
Idhar se.
Idhar
tak. Okay. Ye bara hai. Kitna bara hai? C'est quelle taille de terre ici?
Ekar.
Kitna bara ekar?
Ye 4 ekar 8 gunte.
4 ekar agunde, 4 acres. Une grande terre en fait. On a bien mis 5 minutes à la traverser. Namasté. Un veau dans l'étable. Qui a plus peur de nous que du chien apparemment. Prashant, où est-ce qu'on va?
La structure. So we are going to see the water harvesting structure, the check dam, small structure which will be helpful to store the water in the drainage.
La structure de retenue des eaux qui va alimenter tous les puits qui sont en aval. Là, on entend déjà l'eau qui coule avec force. Allez, on fait un beau barrage en ciment. So how many dams, combien de bassins de retenue vous avez comme ça?
Il y a trois petits barrages de retenue de collines et quatre barrages plus importants en dur. Et en tout, ça fait sept barrages.
Sur quelle distance?
Du haut jusqu'en bas, ces structures sont réparties sur 1,5 km le long de la rivière. Ce barrage-là est construit avec des pierres et du ciment. Il a été inauguré en 2001 et il a une espérance de vie de 25 à 30 ans.
Cela, ça permet à chaque fois, dans chaque bassin de retenue, d'alimenter eh bien, les terres qui sont adjacentes, d'alimenter les terres agricoles, éviter que tout redescende vers la vallée et inonde bien sûr la vallée, alors que ça ne bénéficierait même pas aux terres en amont. Ce village de Vankouté est encastré dans une vallée, une belle vallée. Il s'étend sur environ 1000 hectares pour une population d'environ 400 familles. L'association Water a mené ici et financé ce projet de lutte contre la désertification entre 2000 et 2006. Le plus important était alors de sensibiliser les habitants, de leur faire comprendre eh bien, les bases de la préservation de la forêt, car cela impliquait des sacrifices. Il ne fallait plus couper les troncs des arbres, ne plus envoyer les bêtes brouter dans la forêt. Et tout cela n'a pas été très facile à mettre en place. Mais au bout de 20 ans, eh bien, les bénéfices semblent clairs. Et aujourd'hui, ce sont les villageois qui assurent de manière indépendante l'entretien et les réparations des digues et des barrages. On entre dans le bâtiment du village où 8 ou 9 fermiers, agriculteurs et différents responsables de ce comité du bassin hydraulique qui nous attendent, tout habillés en blanc et puis coiffés de leur toque traditionnelle du Maharashtra de cette partie de l'ouest de Bombay, tout en blanc donc. Bonjour, namasté.
À l'époque, la vie était difficile ici. On ne pouvait avoir qu'une récolte. Et on dépendait complètement de la pluie pour arroser nos champs. Les bonnes années, certains pouvaient parfois obtenir une deuxième récolte pendant l'été, avec l'eau qui restait dans leur puits. Mais c'était rare. On faisait généralement pousser des pois chiches, du millet et des oignons. Cela nous permettait de vivre, mais on ne pouvait rien vendre. C'est alors qu'ils sont arrivés et nous ont parlé de leur projet de gestion de l'eau. Il fallait respecter quatre règles principales. Ne pas couper les racines des arbres, ne pas laisser brouter les animaux dans les forêts. Chaque agriculteur devant travailler 4 jours par mois gratuitement pour le projet. Et enfin, l'alcool a été interdit du village.
L'interdiction de boire.
Oui, on a interdit l'alcool, car pour réaliser ce projet, la communauté doit être unie. Les gens doivent travailler ensemble. Si on autorise l'alcool, cela peut créer des troubles et cela perturbe la cohésion sociale dans le village. Donc cela a été interdit, et ça l'est toujours aujourd'hui.
Et c'était difficile au début de mettre en place le projet. Tous ces efforts de devoir travailler 4 jours par mois gratuitement, de ne pas boire d'alcool, de travailler tous ensemble. Ceux qui étaient là à ce moment-là, est-ce qu'ils peuvent parler de ça?
Oui, tout le monde ne comprenait pas l'intérêt ni les raisons de toutes ces interdictions. Certaines personnes des communautés tribales ont protesté contre l'interdiction de faire brouter les animaux, car ils avaient beaucoup de chèvres et les emmenaient dans les forêts. Et d'autres villageois ont été jusqu'à porter plainte contre le comité pour lever l'interdiction de boire de l'alcool. Mais nous avons été voir dans un village voisin comment cela a été bénéfique pour eux. Et nous avons pu convaincre tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde a compris que plus la forêt sera dense et plus nous aurons d'eau pendant l'été.
Quelles sont les différences dans ce village? À quoi il ressemble maintenant comparé à avant?
Avant, nous manquions souvent d'eau à boire pendant l'été et nous dépendions de camions-citernes qui s'arrêtaient à 2 km du village. Maintenant, ça n'arrive plus, sauf bien sûr l'année dernière à cause de la très forte sécheresse. En fait, nous avons généralement assez d'eau pour arroser et avoir une deuxième récolte pendant la saison chaude. Nous plantons des petits pois, des grenades et d'autres aliments que nous pouvons vendre. Cela a fortement réduit les migrations. Avant, 80% des habitants devaient partir travailler hors du village pendant l'été. Et au moins 5% allaient même vivre à Bombay pendant 6 mois pour gagner leur vie. Maintenant, à peine 10% des villageois partent travailler dans les villages voisins. Et quasiment plus personne ne part à Bombay.
Cette association travaille dans 7 États sur les 28 que compte l'Inde. Mais ses efforts sont bien sûr loin d'être suffisants au regard du danger auquel l'Inde fait face. Car la désertification ici progresse vite. Chaque année, elle touche 145 000 hectares de terres supplémentaires. Des terres qui perdent leurs ressources en eau et deviennent ainsi impossibles à cultiver. Dans un pays où plus de la moitié de la population dépend encore de l'agriculture, eh bien cela pourrait rapidement entraîner un cataclysme et une migration chaotique vers les villes. Le gouvernement indien est bien sûr conscient du défi. New Delhi a promis de reverdir 5 millions d'hectares de terres dégradées d'ici à 2030. Une promesse ambitieuse, mais qui montre l'ampleur de la tâche.
వారి మహిమతో చేసిది ఒక మట్టి బొమ్మనంట, 9 కిటుకల దర్వాజాలు మాటలాడుకుంట.
C'était un reportage de Sébastien Farcy réalisé par François Porcheron. Demain, nous vous expliquerons l'ampleur de ce phénomène de la désertification en direct de la 16e conférence des Nations Unies à Riyad en Arabie Saoudite. Merci à Caroline Fillette pour la préparation, à François Porcheron pour la réalisation. Prenez soin de vous, des vôtres et du monde. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.